Chapitre 28. Si tu écoutes, si tu n'écoutes pas. Israël sous le gouvernement de Dieu. Ce chapitre ne doit nullement être pris comme une suite du chapitre 27. Pour expliquer l'absence de bénédiction dans ce dernier, quelques commentateurs ont voulu les voir ici. Mais c'est une grande erreur, erreur fatale à la compréhension de chacun de ces chapitres. Le fait est qu'ils sont entièrement distincts dans leur base, leur but et leur application pratique. Le chapitre 27 est moral et personnel. Le chapitre 28 est dispensationnel et national. Celui-là traite du grand principe fondamental de la condition morale de l'homme comme pécheur entièrement ruiné et incapable de rencontrer Dieu sur le terrain de la loi. Celui-ci s'occupe d'Israël comme nation, sous le gouvernement de Dieu. Citons un ou deux passages à l'appui de ce que nous avançons. Et il arrivera que si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu pour prendre garde à pratiquer tous ses commandements que je te commande aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te mettra très haut au-dessus de toutes les nations de la terre, et toutes ses bénédictions viendront sur toi et t'atteindront si tu écoutes la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville, et tu seras béni dans les champs. Le fruit de ton ventre sera béni, et le fruit de ta terre, et le fruit de tes bêtes, les portées de ton gros bétail, et l'accroissement de ton menu bétail. Ta corbeille sera bénie, et ta huche. Tu seras béni en entrant, et tu seras béni en sortant. Versets 1 à 6. Il est parfaitement clair que ce ne sont pas là les bénédictions prononcées par les 6 tribus sur le mont de Garizim. Ce qui nous est présenté ici, c'est la dignité nationale d'Israël, sa prospérité et sa gloire, fondée sur l'observation diligente de tous les commandements placés devant lui dans ce livre. Le dessein de Dieu était qu'Israël soit au-dessus de toutes les nations. Ce dessein s'accomplira certainement, bien qu'Israël, dans le passé, ait manqué honteusement à l'obéissance qui devait former la base de sa gloire et de sa prééminence comme nation. Les bénédictions d'Israël et celles de l'Église. Quelques commentateurs ont adopté un système d'interprétation par lequel les bénédictions accordées à Israël sont spiritualisées et appliquées à l'Église. C'est une très grave erreur. Une telle manière de traiter la parole de Dieu est irrespectueuse et a des effets désastreux. Cette interprétation est diamétralement opposée à la pensée et à la volonté de Dieu. Il ne saurait approuver que l'on détourne ainsi de leur vraie signification les bénédictions et les privilèges de son peuple d'Israël. Il est vrai que nous lisons, dans le 3e chapitre de l'Épître aux Galates, « afin que la bénédiction d'Abraham parvint aux nations dans le Christ Jésus ». Mais qu'est-il ajouté ? Afin que nous recevions par la foi l'Esprit promis. Verset 14. Et non pas, afin que nous recevions des bénédictions terrestres, dans les fruits de notre terre ou de notre bétail. Nous apprenons aussi, par la même épître, au chapitre 4, qu'il sera permis à Israël restauré de compter parmi ses enfants tous ceux qui sont nés de l'Esprit pendant la période chrétienne. Mais la Jérusalem d'en haut est la femme libre, qui est notre mère. Car il est écrit, « Réjouis-toi, stérile qui n'enfante point. Éclate de joie et pousse des cris, toi qui n'es point en travail d'enfant. Car les enfants de la délaissée sont plus nombreux que les enfants de celle qui a un mari. » Versets 26 et 27. Il n'y a aucune raison pour transférer aux croyants du Nouveau Testament les promesses faites à Israël. Dieu s'est engagé par serment à bénir la descendance d'Abraham, à la bénir de toutes les bénédictions terrestres au pays de Canaan. Cette promesse se maintient et est absolument inaliénable. Malheur à tous ceux qui tenteraient de mettre en doute son accomplissement littéral. Il aura lieu au temps voulu de Dieu. Il ne faut jamais perdre de vue que les bénédictions d'Israël sont terrestres, et celles de l'Église célestes. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, en Christ. Éphésiens 1, verset 3. Les résultats de l'obéissance et de la désobéissance. Ce chapitre 28 du Deutéronome se divise clairement et naturellement en deux parties. Dans la première, nous avons un exposé complet des résultats de l'obéissance, versets 1 à 14. Dans la seconde partie, se trouve l'exposé solennel des terribles conséquences de la désobéissance, versets 15 à 68. Et ce qui est bien digne de remarque, c'est que la division contenant les malédictions a plus de trois fois la longueur de celle qui renferme les bénédictions. Le chapitre entier développe avec puissance ce qu'est le gouvernement de Dieu et le fait que notre Dieu est un feu consumant. Hébreux 12, verset 29. Toutes les nations de la terre peuvent apprendre par l'histoire d'Israël que Dieu doit punir la désobéissance, et tout premièrement chez les siens. Et s'il n'a pas épargné son peuple, quelle sera la fin de ceux qui ne le connaissent pas? Les méchants seront repoussés jusque dans le Shéol, toutes les nations qui oublient Dieu. Psaume 9, verset 17. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Hébreux 10, verset 31. On ne peut éluder la portée de passages semblables ou en détruire la force. Qu'on lise ce chapitre en le comparant avec l'histoire actuelle d'Israël, et l'on verra que, aussi sûrement qu'il y a un Dieu dans les cieux, il punira ceux qui font le mal, maintenant déjà comme plus tard. Il ne peut en être autrement. Dieu, dans son gouvernement parfait, ne peut tolérer le mal sans le juger, le condamner et le punir. Il serait vain de le contester en avançant des arguments fondés sur la bonté, la longanimité et les compassions de Dieu. Il est bon, miséricordieux, plein de grâce, de support et de compassion. Mais il est saint et juste, droit et parfait. Et il a établi un jour auquel il doit juger en justice la terre habitée par l'homme qu'il a destiné à cela, de quoi il a donné une preuve certaine à tous, l'ayant ressuscité d'entre les morts. Acte 17, verset 31. Israël à la tête des nations. Nous désirons attirer l'attention du lecteur sur un point très intéressant en rapport avec le verset 13. « Et l'Éternel te mettra à la tête et non à la queue, et tu ne seras qu'en haut, et tu ne seras pas en bas, si tu écoutes les commandements de l'Éternel, ton Dieu, que je te commande aujourd'hui pour les garder et les pratiquer. » Ceci, sans nul doute, se rapporte à Israël comme nation, car il est destiné à être à la tête de toutes les nations de la terre. Tel est le propos et le dessein arrêté de Dieu concernant ce peuple. Quelque bas qu'il soit tombé, dispersé et perdu parmi les nations, souffrant des terribles conséquences de sa désobéissance, toutefois, comme nation, il s'élèvera et brillera d'une gloire beaucoup plus grande que celle qu'il a connue au temps de Salomon. Tout cela est démontré d'une manière incontestable dans plusieurs passages des Écritures. Mais en parcourant l'histoire d'Israël, nous trouvons quelques exemples très frappants d'individus qui, par la grâce de Dieu, se sont appropriés les précieuses promesses contenues dans le verset 13, et cela même dans des périodes très sombres et très humiliantes de l'histoire nationale d'Israël, lorsque, comme nation, il était à la queue et non à la tête. Nous ne citerons qu'un exemple ou deux, non seulement pour rendre le sujet plus clair, mais aussi pour présenter au lecteur un principe d'une immense importance pratique et d'une application universelle, celui de la fidélité individuelle au milieu de la ruine générale. L'exemple de Mardochée. Le livre d'Esther enseigne une leçon que ne donne aucun autre livre. Il appartient assurément à une période où Israël n'était pas à la tête, mais à la queue. Et néanmoins, nous y lisons l'histoire d'un fils d'Abraham se conduisant de manière à atteindre une position des plus élevées et remportant une glorieuse victoire sur l'ennemi le plus acharné d'Israël. Quant à la condition du peuple d'Israël au jour d'Esther, elle était telle que Dieu ne pouvait le reconnaître publiquement. De là vient que son nom n'est pas mentionné dans ce livre. Les gentils étaient à la tête et Israël à la queue. La relation entre Dieu et Israël ne pouvait plus être ouvertement reconnue, mais le cœur de l'Éternel ne pouvait jamais oublier son peuple, et nous pouvons ajouter que le cœur d'un Israélite fidèle ne pouvait jamais oublier l'Éternel. Ce sont justement ces deux faits qui caractérisent cette partie de la parole. Dieu agissait pour Israël derrière la scène, et Mardochée agissait pour Dieu sur la scène. Nous faisons allusion à cette histoire pour faire ressortir l'importance de la fidélité individuelle dans un moment où la gloire nationale d'Israël s'était évanouie. Mardoché restait ferme comme un roc pour la vérité de Dieu. Il refuse inflexiblement de reconnaître Aman, l'Agagite, un descendant d'Amalek. Il sauve la vie d'Assuérus et se soumet à son autorité comme expression de la puissance de Dieu, mais il ne veut pas s'incliner devant Aman. Sa conduite dans cette affaire était gouvernée simplement par la parole de Dieu. L'autorité par laquelle il agissait se trouve dans le livre du Deutéronome. « Souviens-toi de ce que t'a fait Amalek, en chemin, quand vous sortiez d'Égypte, comment il te rencontra dans le chemin et tomba en queue sur toi, sur tous les faibles qui se traînaient après toi, lorsque tu étais las et harassé, et ne craignis pas Dieu. Et quand l'Éternel ton Dieu t'aura donné du repos de tous tes ennemis alentour, dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage pour le posséder, il arrivera que tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous les cieux, tu ne l'oublieras pas. » Chapitre 25, versets 17 à 19. Cela était assez clair pour tout cœur obéissant, pour toute conscience droite. Le langage d'Exode 17 est tout aussi net. Et l'Éternel dit à Moïse, « Écris ceci pour mémorial dans le livre et fais-le entendre à Josué, que j'effacerai entièrement la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. » Et Moïse bâtit un autel et appela son nom Jéhovah Nissi, l'Éternel mon enseigne. Et il dit, « Parce que Jah a juré, l'Éternel aura la guerre contre Amalek de génération en génération. » Versets 14 à 16. C'est sur cette autorité que Mardoché pouvait se fonder pour refuser de donner à Aman le moindre signe de déférence. Comment un descendant fidèle de la maison d'Israël aurait-il pu s'incliner devant un homme de la maison contre laquelle l'Éternel était en guerre? C'était impossible. Mardoché pouvait se revêtir d'un sac, jeûner et pleurer pour son peuple, mais il ne pouvait ni ne voulait s'incliner devant un Amalékite. Peu lui importait qu'on l'accuse de présomption, d'obstination, de bigoterie ou d'étroitesse d'esprit. Refuser de rendre au plus grand seigneur du royaume les marques ordinaires de respect pouvait paraître une folie de sa part. Mais ce seigneur était un Amalékite, et c'en était assez pour Mardoché. C'est là ce qui rend le cas si intéressant et si important pour nous. Rien ne peut détruire notre responsabilité d'obéir à la parole de Dieu. On aurait pu dire à Mardoché que le commandement relatif à Amalek était une chose passée, qui ne se rapportait qu'au jour glorieux d'Israël, et que maintenant tout était changé. La gloire avait quitté Israël. Fallait-il encore essayer d'agir d'après la loi de Moïse? De semblables arguments, nous en sommes persuadés, n'auraient eu aucune valeur pour Mardoché. L'Éternel avait dit « Souviens-toi de ce que t'a fait Amalek, tu ne l'oublieras pas. » Jusqu'à quand ces paroles étaient-elles valables? De génération en génération. La guerre de l'Éternel avec Amalek ne devait pas cesser jusqu'à ce que le nom même de celui-ci et sa mémoire soient effacés de dessous les cieux. Et pourquoi? À cause de la manière lâche et cruelle dont ce peuple avait agi envers Israël. Telle était la bonté de Dieu envers son peuple. Comment, après cela, un Israélite fidèle aurait-il pu se prosterner devant un Amalékite? Et quel fut le résultat de cette fidélité? Un triomphe magnifique. D'un côté, nous voyons le fier Amalékite près du trône, se réjouissant de la faveur royale, se glorifiant dans ses richesses et sa grandeur, prêt à écraser sous ses pieds toute la descendance d'Abraham. D'un autre côté, nous voyons le pauvre Mardoché couvert du sac et de la cendre, dans les larmes, à la porte du palais. Et soudain, Aman, qui cherchait à faire pendre Mardoché, fut obligé d'être comme son serviteur et de le conduire avec une pompe et une splendeur royale à travers les rues de la ville. Et Aman dit au roi, « Quant à l'homme que le roi se plaît à honorer, qu'on apporte le vêtement royal dont le roi se revêt, et le cheval que le roi monte, et sur la tête duquel on met la couronne royale, et que le vêtement et le cheval soient remis aux mains d'un des princes du roi les plus illustres, et qu'on revête l'homme que le roi se plaît à honorer, et qu'on le promène par les rues de la ville, monté sur le cheval, et qu'on crie devant lui, « C'est ainsi qu'on fait à l'homme que le roi se plaît à honorer. » Et le roi dit à Aman, « Hâte-toi, prends le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit, et fais ainsi à Mardoché, le juif, qui est assis à la porte du roi. N'omets rien de tout ce que tu as dit. » Et Haman prit le vêtement et le cheval, et revêtit Mardochée, et le promena à cheval par les rues de la ville, et il criait devant lui : « C'est ainsi qu'on fait à l'homme que le roi se plaît à honorer. » Et Mardochée revint à la porte du roi. Et Haman se rendit en hâte à sa maison, triste et la tête couverte. Esther 6, versets 7 à 12. Ici, assurément, Israël était à la tête et Amalek à la queue. Israël, non pas comme nation, mais individuellement. Mais ce n'était que le commencement de la défaite d'Amalek et de la gloire d'Israël. Haman fut pendu au gibet même qui avait été préparé pour Mardochée. Et Mardochée sortit de devant le roi, avec un vêtement royal, bleu et blanc, et une grande couronne d'or, et un manteau de byssus et de pourpre, et la ville de Suse poussait des cris de joie et se réjouissait. Chapitre 8, verset 15. Ce ne fut pas tout. L'effet de cette merveilleuse victoire se fit sentir au loin, dans les 127 provinces de l'Empire. Et dans chaque province et dans chaque ville, partout où parvenait la parole du roi et son édit, il y eut de la joie et de l'allégresse pour les Juifs, un festin et un jour de fête. Et beaucoup de gens parmi les peuples du pays se firent Juifs, car la frayeur des Juifs tomba sur eux. Chapitre 8, verset 17. Et pour couronner le tout, nous lisons que Mardochée, le Juif, fut le second après le roi Assuérus. Et il fut grand parmi les Juifs, et agréable à la multitude de ses frères, cherchant le bien de son peuple, et parlant pour la paix de toute sa race. Chapitre 10, verset 3. Tout cela ne nous prouve-t-il pas de la manière la plus frappante l'immense importance de la fidélité individuelle? Ce récit n'est-il pas propre à nous encourager à tenir ferme pour la vérité de Dieu, quoi qu'il puisse nous en coûter? L'exemple de Daniel et de ses compagnons. Pour éclairer davantage le sujet suggéré par le verset 13 de Deutéronome 28, rappelons encore les chapitres 3 et 6 de Daniel. Là, nous verrons quels résultats moralement glorieux peuvent être obtenus par la fidélité individuelle au vrai Dieu, au moment où c'en était fait de la gloire nationale d'Israël, où la ville sainte et le temple étaient en ruine. Les trois hommes fidèles refusent de se prosterner devant la statue d'or. Ils osent affronter le courroux du roi, résister à la voix universelle de l'Empire, s'exposer même à la fournaise ardente plutôt que de désobéir. Ils pouvaient donner leur vie, mais n'ont pas abandonné la vérité de Dieu. Et quel fut le résultat de leur fidélité? Une glorieuse victoire. Ils marchèrent au milieu de la fournaise avec le Fils de Dieu et furent appelés hors de la fournaise pour être les témoins et les serviteurs du Dieu Très-Haut. Glorieux privilège, merveilleuse dignité. Voilà le résultat de l'obéissance. S'ils avaient suivi la foule et courbé leur tête devant le Dieu national, afin d'échapper à la terrible fournaise, combien n'auraient-ils pas perdu? Mais, béni soit Dieu, ils furent rendus capables de tenir ferme, et le récit de leur fidélité nous a été transmis par le Saint-Esprit afin de nous encourager à marcher avec fermeté dans le sentier du dévouement individuel en face d'un monde qui hait Dieu et qui rejette Christ, et en face d'une chrétienté qui corrompt la vérité. Le récit de Daniel 6 est bien propre, lui aussi, à stimuler nos âmes. Il nous donne une leçon tout à fait appropriée à nos jours. Combien il est rafraîchissant de lire le récit de la fidélité de Daniel. Avec une décision inflexible, il persistait dans sa bonne habitude de prier trois fois par jour, ayant sa fenêtre ouverte du côté de Jérusalem, bien qu'il sût que la fosse aux lions l'attendait. Il aurait pu fermer sa fenêtre et tirer ses rideaux pour prier, ou bien attendre une heure à laquelle aucun œil humain ne pouvait le voir ou aucune oreille l'entendre. Mais non, ce fidèle serviteur de Dieu ne voulait pas cacher sa lumière sous un boisseau. Un grand principe était en jeu. Ce n'était pas simplement qu'il voulait prier le seul Dieu vivant et vrai, mais il voulait le faire avec ses fenêtres ouvertes du côté de Jérusalem. Et pourquoi du côté de Jérusalem? Parce que là était le centre établi de Dieu. La ville était en ruine, mais pour la foi, Jérusalem demeurait le centre établi de Dieu pour son peuple terrestre. Elle l'était et le sera. Et c'est pourquoi Daniel était en pleine communion avec la pensée de Dieu quand il ouvrait ses fenêtres du côté de Jérusalem pour prier. En le faisant, Il avait pour lui les Écritures, comme on peut le voir dans 2 Chroniques 6, verset 38. Et s'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de toute leur âme, dans le pays de leur captivité, où on les aura emmenés captifs, et te prient en se tournant vers leur pays que tu as donné à leur père, et vers la ville que tu as choisie, et vers la maison que j'ai bâtie pour ton nom, etc. C'est sur ce fondement que Daniel agissait, et cela sans se préoccuper des opinions humaines, et sans regarder non plus aux peines et aux châtiments. Il préférait être jeté dans la fosse aux lions, plutôt que d'abandonner la vérité de Dieu. Et quel fut le résultat? Un autre splendide triomphe. Daniel fut tiré de la fosse, et aucun mal ne fut trouvé sur lui, parce qu'il s'était confié en son Dieu. Noble témoin, assurément il était à la tête dans cette occasion, et ses ennemis étaient à la queue. Et par quel moyen? Simplement par son obéissance à la parole de Dieu. Quels brillants exemples de fidélité individuelle dans un temps de ruine générale. Nous ne devons pas forcément nous attendre à des résultats aussi prompts, aussi frappants et aussi magnifiques que dans le cas que nous avons mentionné. Il se peut que Dieu trouve bon d'accorder à ses serviteurs de voir de grands résultats, comme aussi de les laisser attendre le grand jour à venir, où il n'y aura aucun danger que nous soyons enflés d'orgueil en voyant les quelques fruits de notre témoignage. Quoi qu'il en soit, notre devoir est de suivre le sentier lumineux et rempli de bénédictions qui nous est tracé par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.